Bonjour à toutes et à tous. Je remercie bien pour cette invitation pour être ici aujourd'hui dans ce colloque. Il faut que je m'excuse déjà parce que je ne parle pas très bien le français. Ça veut dire qu'il est possible que je vais utiliser des mots qui n'existent pas dans votre langue, mais j'ai l'aide de Douglas qui n'est pas aussi français, mais il est brésilien et il peut m'aider si j'ai des difficultés. Même comme ça, je vais essayer de parler français et d'être clair dans mes positions. Je veux dire seulement quelques choses un petit peu générales sur les lobbies de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de lobbies dans l'Europe et surtout dans le Parlement européen. Je suis membre du Parlement européen, je suis députée au même groupe que les autres députés français, ce groupe des gauches unitaires où sont des députés comme par exemple Patrick Liaric, Jacques Yannin, Jean-Luc Mélenchon, des autres députés français. Et nous sommes dans le même groupe, c'est un groupe très petit de 35 membres entre 700 36, ça veut dire que notre relation de pouvoir au sein du Parlement, ce n'est pas la même que du PPE, par exemple. C'est vrai que dans les dernières 10 mois, j'ai été l'opportunité, si on peut dire comme ça, de partager le même espace que le lobby de l'industrie de la pharmaceutique et aussi des autres domaines dans la santé, parce que j'ai été nominée pour le Parlement comme la rapporteuse de la directive de la législation sur la prévention des médicaments falsifiés à l'espace européen. J'ai été nominée la rapporteuse, la responsable pour la stratégie sur l'Alzheimer et aussi des autres maladies mentales. Le dernier 10 mois, comme j'ai dit, j'ai été beaucoup de réunions pour faire mon rapport. Vous savez comment est-ce qu'il se passe dans le Parlement européen. Nous n'avons pas la capacité d'avoir des initiatives législatives. Cette capacité, c'est de la Commission. La Commission présente une proposition au Parlement et après, le Parlement fait la nomination d'un membre, d'un député qui est responsable pour tout le Parlement pour présenter sa proposition législative dans la base qui a été présentée pour la Commission. Et après, il y a la phase de la négociation avec le Conseil. C'est la façon de travailler dans le Parlement. C'est dans cette case-là, ce qui se passe, c'est que le Parlement fait la nomination d'un membre pour être le responsable et tous les autres groupes sont, pas forcés, mais est normal de nominer un rapporteur qui est le rapporteur sombre. Shadow rapporteur, qui va accompagner tout le travail qui est donné pour le rapporteur principal. Comme vous pouvez imaginer, dans le domaine des médicaments falsifiés, c'est un domaine vraiment complexe et avec beaucoup de discussions parce qu'il y a beaucoup des intérêts qui sont contradictoires et je suis vraiment... Je pense vraiment que ce n'était pas une bonne nouvelle pour l'industrie pharmaceutique quand ils ont su que la personne responsable pour la proposition du Parlement en matière de législation sur médicaments falsifiés être le groupe des gauches unitaires et pas d'autres groupes. Je suis sûre que ça, c'était pas une bonne nouvelle. Mais ça veut dire que nous avons au Parlement une situation où le lobby est certifié. illégale. Nous avons presque 2 000 organisations lobbyistes qui sont certifiées dans le Parlement. Ça veut dire que toutes ces organisations peuvent être dans le Parlement comme quelques membres du Parlement, comme quelques fonctionnaires, comme quelques personnes. Ils peuvent entrer et sortir et aller dans notre bureau et demander des réunions, des vues et choses comme ça, des meetings. Mais nous savons aussi qu'il y a une estimative qu'il y a 60% de lobby n'est pas certifié. Ça veut dire que nous avons la pression non seulement de lobbyistes qui sont certifiés, mais aussi des autres associations qui ne sont pas certifiées, mais qui peut avoir des interférences dans les process législatifs aussi. Dans ce cas-là, c'est difficile de dire quel est exactement le pourcentage des lobbies de l'industrie pharmaceutique dans le total des lobbies qui sont certifiés. Mais c'est vraiment ils ont vraiment un grand poids dans ce domaine-là. Mais il y a aussi des associations des malades, il y a aussi des associations des consommateurs, il y a aussi des associations environnementales. Il y a beaucoup, il y a une grande diversité, oui, dans les groupes des lobbyistes qui sont certifiés. Dans les derniers 10 mois, j'ai déjà fait, je ne sais pas, mais je suis sûre que plus de 200 de rendez-vous avec des lobbyistes pour préparer les rapports sur les médicaments falsifiés. J'ai fait aussi des visites, pas seulement à l'industrie pharmaceutique, mais aussi tous les autres acteurs de la chaîne physique de distribution de médicaments. Il y a beaucoup de travail de négociation qu'il y a besoin de faire avec les autres groupes politiques. Maintenant, dans cet étage-là, mon proposition est déjà votée dans la commission d'environnement, santé publique, et elle a passé et je suis en la phase de négocier avec le conseil. Mais qu'est-ce que je peux dire avec tout ça? Je peux dire que de mon expérience, il y a vraiment des grandes inégalités. Je ne suis pas, pour être claire, j'ai des problèmes, des principes d'avoir la certification des lobbyistes au sein du Parlement, mais en même temps, je ne suis pas totalement contre parce que ça c'est aussi une forme d'être transparent et clair sur celles qui sont là. Et on peut vérifier à quelques moments qui sont les organisations qui ont le pouvoir et le droit d'entrer tous les jours au Parlement et qui ne sont pas les organisations qui ont le même droit. Et je dis ça parce qu'il y a vraiment des grandes inégalités. Inégalités entre les États membres, parce qu'il y a des États membres qui ont la possibilité de registrer. Ce n'est pas une question des États, bien sûr, mais il y a des pays qui ont conditions pour registrer beaucoup d'organisations comme lobbyistes officiels du Parlement. Il y a des autres pays qui n'avaient pas la même capacité. Ça veut dire que les grands pays sont toujours mieux représentés que les petits. Il y a aussi des inégalités entre les grandes associations et les petits. Par exemple, il faut dire que pour avoir des auditions, pour avoir des discussions avec des petites organisations et des organisations qui n'avaient pas les moyens pour être à Bruxelles toutes les semaines ou à Strasbourg. J'ai fait choses comme de voyager pour autres pays ou même au Portugal pour faire des rendez-vous avec cette petite organisation parce que cette inégalité est vraiment existante. Et il y a aussi une grande inégalité entre le grand groupe des industries pharmaceutiques, les 10 plus grandes industries dans l'Europe, qui est EPFIA, l'association, et les autres, les plus petites. L'EPFIA a vraiment un grand pouvoir dans les temps de négociation. Et comment est-ce qu'on peut voir comment est-ce qu'il y a cet pouvoir? Et je peux vous donner quelques exemples de mon expérience. Ça veut dire que cette proposition de législation a été vraiment encouragée par l'industrie pharmaceutique, la législation de la prévention des médicaments falsifiés dans l'espace européen est très vraiment encouragée par l'industrie pharmaceutique parce qu'il y a des situations avec les réseaux des les réseaux criminels de falsification des médicaments, il y a les profits ne sont pas les mêmes pour l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire qu'il a été vraiment encouragé pour l'industrie pharmaceutique, que la commission a présenté une proposition de faire ça. Mais je dois dire aussi que je pense que c'est une question de santé publique qui est vraiment importante. Et c'est pas intéressant de savoir qui a été le plus important acteur pour avoir l'idée d'avoir cette législation-là ou non, parce que je pense que la question, c'est vraiment une question de santé publique qui est vraiment un problème croissant dans l'espace européen, même qu'il est totalement différent de la situation qu'on vit dans l'Europe et la situation qu'on vit dans le reste du monde comme dans ce domaine-là aussi, dans le médicament falsifié. Mais il y a des autres données que pour montrer comment est-ce que ce lobby a du pouvoir. J'ai présenté mon proposition de rapport de législation avec beaucoup de changements à la proposition de la Commission. Je ne vais pas parler sur ça parce que je n'ai pas 2 semaines pour parler avec vous sur ça. Et quand je commence, c'est difficile de pas avancer. Mais il y a été déjà une question qui est très vraiment importante pour moi, qui était la première bataille, qui était la question de la base juridique. Ne pas oublier pas que toute la politique du médicament était partie de la direction générale entreprise dans la Commission européenne. Et seulement il y a, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois, qu'il est maintenant dans la direction générale santé. Ça veut dire que quand j'ai pris ce rapport et cette proposition, toute la base juridique qui était proposée pour la Commission, c'est la base juridique du marché unique. Et ma première bataille était de je ne peux pas changer la base juridique qui est proposée, mais j'ai proposé de la doublier. Et pour aider à la base juridique du marché unique, la base juridique aussi de la santé publique. Ça, c'était la première bataille qui est en fait, à la fin, les autres groupes ont accepté qu'on a maintenant une base juridique double pour traiter les questions des médicaments falsifiés. Mais la proposition initiale, ce n'est pas ça. J'ai présenté la proposition, comme j'ai dit, mon rapport. À la fin, il a été une période pour les amendements des autres groupes et j'ai reçu 499 amendements qu'il faut négocier pour 3 mois, qu'il faut négocier pour avoir des amendements de compromis. Dans ce groupe de 499 amendements que j'ai reçus, il a été beaucoup des amendements qui étaient vraiment les mêmes. Des députés qui ne sont pas des mêmes groupes politiques, qui ont présenté exactement les mêmes amendements, écrits de la même façon, avec toute la même justification. OK, ça c'est une chose qui simplifie la négociation, parce qu'il y a des amendements qui sont écrits 10 fois pour 10 membres différents, mais c'est possible de voir qu'il y a la pression du lobby, qu'on voit ces emails avec, je peux dire même que si j'ai de la volonté, je peux avoir mon rapport écrit pour beaucoup des groupes et des lobbies et sans avoir quel travail, parce que j'ai réussi toujours, je ne sais pas, mais il y a des jours que j'ai 800 mails sur cette question-là avec des propositions et pour écrire les rapports et les amendements et les négociations. Mais c'est un autre exemple de comment les lobbies fonctionnent, parce que quand on va voir, OK, j'ai besoin de faire de la négociation entre tous les groupes à partir de 499 amendements. Et quand on va voir, il y a des amendements qui sont exactement les mêmes et des députés isolés qui sont des groupes différents qui... Et c'est sûr qu'ils ont reçu cette proposition des autres groupes et les présentent comme ses propres amendements, même quand ils ne sont pas. Ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Il y a des autres exemples aussi, mais il y a des questions que seulement des petites questions que je voudrais faire la référence ici. Parce que maintenant, dans l'espace européen, les médicaments falsifiés, nous n'avons pas des données qui sont des données fiables, mais les estimatifs avec les médicaments falsifiés représentent 1% de tous les médicaments qu'on peut acheter dans l'espace physique. Ça veut dire que si je vais à une pharmacie, à chaque 100 médicaments, il y a la possibilité d'en être falsifié. Et s'il y a été un étage et que la falsification, c'est surtout dans les médicaments des styles de vie, maintenant, ce n'est pas le cas. La falsification est sur les médicaments pour les cancers, par exemple, pour les antibiotiques. Et nous avons une idée que la croissance de falsification est entre 10 à 20% chaque année. Il y a aussi des données qui montrent qu'entre 2005 et 2008, la croissance de médicaments falsifiés qui ont été détectés dans les douanes européennes, la croissance était de 384%. Mais il y a beaucoup de questions qui sont questions politiques très fortes et très contradictoires quand on parle sur ces sujets-là. Si on dit que dans l'espace européen, il y a 1% de médicaments falsifiés dans l'espace physique, si on parle d'autres pays, dans l'Amérique du Sud, dans l'Afrique, on parle de 60% ou même de 80% des médicaments qui sont falsifiés. Et la comparaison est... ce n'est pas nécessaire de la faire. Mais la législation qui a été proposée pour la Commission européenne, c'est seulement de contrôler l'entrée dans l'espace européen et pas contrôler la production du médicament dans l'espace européen qui après sont exporter pour les autres pays. Même que ça représente un pourcentage très petit, hein. Mais un des changements que j'ai fait et que j'ai introduit, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'on va contrôler et faire toutes les inspections de tous les médicaments, tous les ingrédients pharmaceutiques actifs qui sont produits dans les autres parties du monde, comme la Chine, la Inde, des autres pays, mais qu'on ne va pas contrôler ce qui est produit dans l'espace européen et qu'après est exporté pour l'Afrique, pour l'Amérique latine, même si ce n'est pas proportionnel. Je pense qu'on ne peut pas essayer pour nous une chose différente, pour les autres une chose différente de que nous accepter pour nous autres, les Européens. C'est une question de standard double. Et même que ce n'est pas un problème majeur pour la santé publique, parce que c'est très petit, mais je pense que c'est une question vraiment importante. Et il ne faut pas faire la confusion entre contrôler les exportations d'Europe pour les autres pays, avec, il ne faut pas faire cette confusion avec le cas, l'exemple de Rotterdam. C'est une situation totalement différente. Parce qu'il a été aussi, ça c'est un autre problème, il faut avoir un traitement différent pour les médicaments qui sont en transit dans l'Europe. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de médicaments et s'il y a un contrôle qui est fait pas d'une façon qui est correcte, ça que va occurrer. Ça que se va passer, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de médicaments qui n'avaient pas. Mais ça, je veux dire aussi que des 60% ou même des 80% des médicaments falsifiés dans le reste du monde sont pour les maladies comme la malaire, le sida et choses comme ça. Ça veut dire que les médicaments falsifiés en quelque part du monde sont des assassins silencieux. Parce que ce n'est pas une question immédiate, mais ils sont des assassins silencieux et je pense qu'il faut vraiment de présenter des propositions dans ce sujet-là. Mais comment est-ce qu'on peut articuler toutes ces entrées contradictoires avec une réponse qui doit répondre pour la santé publique, pour colloquer la santé publique, les malades dans le centre de la discussion et pour l'entrée commune. Et ça, c'est vraiment une négociation qui est vraiment difficile de faire. L'industrie pharmaceutique a fait une grande pression pour éliminer tous les intermédiaires dans le process, dans la chaîne de distribution. Ma position, ce n'est pas la même. Et la question, c'est qu'on peut donner la même raison pour éliminer ou pas éliminer les intermédiaires. Que c'est la raison de la santé publique du risque de falsification dans la chaîne. La position d'industrie pharmaceutique, c'est qu'il y a une concentration de la production, bien sûr, mais s'il y a une vente directe du producteur au consommateur, ou à l'hôpital, le risque de falsification, au mieux, c'est pas existante. Mais dans une situation comme la situation qu'on vit actuellement, dans une situation de crise économique et sociale vraiment grave en tous les pays d'Europe, il faut dire aussi qu'il y a une autre forme d'éviter la falsification à travers des intermédiaires qui est la définition de son rôle, de ses responsabilités, et de tous les contrôles qu'il doit être fait pour garantir la santé publique. Une autre position qui est vraiment différente est dans les cas qui on doit avoir une intervention prioritaire. La proposition de l'industrie pharmaceutique, c'est de traiter de la même façon tous les types de médicaments, les sujets à prescription médicale, les génériques et toutes les autres qui ne sont pas sujets à prescription médicale, à travers d'une analyse des risques. Et ma proposition est d'avoir un traitement différent pour les médicaments qui sont sujets à la prescription médicale parce qu'ils représentent une dimension de risque différente. Pour quelles raisons ils sont sujets à prescription médicale, pour les génériques et pour les autres qui ne sont pas sujets à prescription médicale. Et il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner, mais je pense que c'est plus intéressant si on peut parler, si on peut parler un petit peu sur toutes les, cette question. Et les débats que cette question pose, que parler sur je ne sais pas combien de temps, pour terminer, je dois dire seulement que ça, c'est un domaine, le domaine de la santé, où est vraiment clair le poids de lobby de l'industrie pharmaceutique leur capacité d'interférence sur les sujets qui ont le droit d'être sujets, pardon, de législation et les autres, et aussi entre les groupes, l'influence en les groupes politiques du Parlement, d'imposer ou d'influencer des amendements et des positions, et tout ce que sont les cas de législation dans ce domaine-là. Cette directive de médicaments falsifiés est part d'une package qui est la Pharma Package, qui est l'information aux patients, la pharmacovigilance et les médicaments falsifiés. La directive, la législation sur l'information aux patients est dans ce moment complètement bloquée parce que le rapport qui a été présenté, toute la discussion, a montré qu'il y a une grande confusion entre qu'est-ce que ça veut dire l'information aux patients et la publicité à l'industrie pharmaceutique. Et dans ce moment-là, c'est une des trois domaines qui est vraiment bloqué parce que la discussion sont interminable, c'est pas possible d'avoir une position commune entre les groupes et les institutions. Le pharmacovigilance est un petit peu plus avancé et dans mon cas, le cas que je suis la responsable du Parlement des médicaments falsifiés, nous sommes en train de négocier avec le Conseil, mais ça veut dire que à la fin. Et après la négociation, je pense que la proposition, ce n'est pas proposition de rêve, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été garanties, assurées, merci, assurées, et que quand j'ai commencé le travail, je n'ai jamais pensé que ça était possible parce que nous sommes vraiment un petit groupe dans un grand parlement. Et merci beaucoup.